Alors donc je vais vous présenter les intervenants au débat aujourd'hui. Monsieur Thomas Bourreau qui arrive presque en courant, donc qui est chargé d'études principales mobilité à l'OCAM. L'OCAM hein, qui est l'agence d'urbanisme de Caen Métropole, comme on m'a bien fait apprendre par rapport au débat de la dernière fois. Ensuite, on a Patrice Bougique, qui est membre du conseil d'administration de l'association des dérailleurs. Ensuite, on a Jean-Louis Le Bouteiller, et qui est donc maire d'Audrieux, président de la communauté de communes du Val de Seule. Et notre dernier intervenant, donc, c'est Éric Veve, qui est donc président de ViaCité, notre syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération cannaise.
Donc ce qui nous a orienté pour le débat aujourd'hui, quelques questions. Comment changer nos habitudes de déplacement sans que cela nous demande trop d'efforts en termes de temps, de coûts et d'investissement personnel et qu'on le fasse vraiment? Par exemple en vélo, puisqu'on a quelqu'un des dérailleurs qui est là aujourd'hui, entre autres. Qui peut y aller et quand en vélo? Les questions des conditions physiques de chacun, de la mobilité de chacun sont importantes et aussi les conditions météorologiques normandes se posent. Celle de la sécurité des aménagements ainsi que celle de l'accessibilité des lieux interviennent. Autre exemple envisagé et déjà amorcé par de nombreuses collectivités de façon très inégale, les transports en commun, bus, tramway, organisation de covoiturage, comment les rendre vraiment attractifs et que leurs pratiques soient socialement mixtes. Et la dimension politique nous paraît vraiment essentielle, par quelles actions accompagner le changement.
Thomas Bourreau, je suis chargé d'études principales mobilité à l'agence d'urbanisme, c'est-à-dire que je prends en charge les parties transport et déplacement dans nos études. Pour présenter l'agence d'urbanisme, c'est une association dont les membres sont les collectivités locales et l'État, et qui a pour but d'observer le territoire, l'aménagement, l'urbanisme, les grandes tendances, d'aider les collectivités dans leur démarche de planification, et nous sortons de la réalisation du schéma de cohérence territoriale. Et puis d'apporter un conseil à nos membres pour toutes les problématiques d'aménagement, de logement ou de mobilité.
Alors je vous pose votre première question, entre guillemets. Comment se déplace-t-on aujourd'hui dans Caen Métropole? Quelles sont les tendances d'évolution? Quels sont les effets des récents équipements en termes d'urbanisme, d'économie, etc.?
À la question comment se déplace-t-on dans Caen Métropole, on pourrait répondre rapidement en disant en voiture. Bon, ça serait un petit peu court, donc je vais quand même développer. Les enseignements de la dernière enquête qui a été faite sur les déplacements en 2005 par ViaCité montrent qu'à peu près 60% des déplacements de l'agglomération sont faits en voiture. Un petit peu moins de 30% à pied, et vous voyez qu'il reste déjà plus grand chose. Donc entre 8 et 10% pour les transports collectifs et 2 à 2% à peu près pour les deux roues et notamment principalement les vélos. Après, ça cache quand même ces chiffres cachent des disparités importantes. C'est-à-dire que selon le lieu, selon l'âge, selon les catégories socioprofessionnelles, on a quand même des comportements de déplacement très différents. Quand on parle de 60% de déplacement en agglomération, en voiture, c'est à peu près 80% dans les territoires périurbains. À l'inverse, dans le centre-ville, il y a moins d'un déplacement sur deux qui se fait en voiture dans le centre-ville de Caen. On est à près de 40 à 50% des déplacements qui se font à pied. Bon, ceci dit, c'est pas une caractéristique spéciale de l'agglomération de Caen et on retrouve dans toutes les agglomérations de même taille à peu près les mêmes comportements. Pour parler d'évolution, là, c'est un petit peu plus délicat parce que pour parler d'évolution, il faut avoir des données qu'on puisse comparer. ViaCité, le Conseil Général et Caen Métropole sont en train de lancer une nouvelle enquête ménage déplacement pour avoir un suivi de celle qui a été faite précédemment et un suivi même encore plus précis, et y compris à l'échelle de l'ensemble du département. Là, on aura des données pour voir quelles sont les évolutions. Je peux vous parler des évolutions sur le plan national, puisqu'on ne peut pas encore parler de celles qu'on constate localement, mais quelque chose d'intéressant qui est apparu depuis 3-4 ans, et c'est une première, c'est pour la première fois dans plusieurs agglomérations, la part des déplacements en voiture a diminué. Et ça a été le cas à Lille, à Lyon, à Reims, à Rennes, donc des villes quand même de taille différente. Et c'est une première depuis l'après-guerre, même c'est une première depuis 100 ans, puisque avant, la part de la voiture n'a fait qu'augmenter depuis l'apparition de la voiture. Une autre tendance qui, là, si on peut appeler ça une tendance, disons que c'est une constante, c'est que ce qu'on appelle le budget temps, le temps qu'on consacre à nos déplacements, est à peu près constant sur des très longues périodes, depuis 30 ans. Bien sûr, il est très différent en province ou à Paris, mais en province, il est à peu près de 20 minutes par un petit peu moins de 20 minutes par déplacement. Et ça, quels que soient les aménagements qu'on fasse, les tramways ou des autoroutes ou des aménagements de TER, il reste à peu près autour de 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que quand on fait des aménagements pour faciliter la mobilité, pour améliorer le transport, ça permet pas d'aller plus vite, ça permet surtout d'aller plus loin. Et donc d'accroître le champ des possibles, le champ des rencontres possibles, le champ des emplois possibles ou des achats possibles. C'est important parce que déjà ça commence à faire le lien avec l'aménagement, entre l'aménagement et les transports. On pourrait dire en gros qu'à 20 minutes à pied, quand on est en centre-ville, on a à peu près autant d'habitants, d'emplois, de commerces que dans un rayon de 20 minutes en voiture quand on est dans un territoire plus rural. Donc du coup, sur le transport, il y a bien deux composantes. Il y a la ville, l'agglomération, la densité et le mode de transport qui joue. Ce qui nous semble important, nous, à l'agence, et puis c'est aussi mon regard d'urbaniste avant même de m'occuper de transport, on a tout intérêt sur le long terme, si on va vers des changements de comportement, à jouer au moins autant sur l'aménagement que sur les infrastructures.
Alors, quelles sont les orientations du SCOT en ce qui concerne les déplacements ?
Alors, pour rappeler ce qu'est le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale, c'est le document de planification de l'aménagement à l'échelle de Caen Métropole, c'est-à-dire environ 130 communes, y compris l'agglomération de Caen, et ça recouvre à peu près le bassin de vie de Caen. On a fait le constat dans le schéma de cohérence territoriale que l'agglomération était de plus en plus étalée, de plus en plus périurbaine. Le taux de croissance des communes en dehors de l'agglomération est 2 à 3 fois supérieur de celle des communes dans les agglomérations. Là encore, c'est pas un phénomène uniquement cannais, mais pour le coup, il est quand même beaucoup plus marqué à Caen que dans d'autres agglomérations. Or, d'un point de vue transport, c'est quand même beaucoup plus difficile de desservir en transport collectif à des coûts acceptables des nombreuses petites communes peu denses que quelques communes denses et avec beaucoup de population. Donc la grande orientation du SCOT en ce qui concerne les déplacements, mais qui est aussi liée à tout un projet de développement, c'est bien de favoriser le développement de l'agglomération. En renouvellement urbain, c'est-à-dire là où c'est déjà construit, on reconstruit la ville sur la ville, c'est les projets de Presqu'île par exemple, ou en extension proche de l'agglomération. Parce que là, on saura mettre les moyens pour desservir ces quartiers. Il y aura suffisamment de densité pour qu'on puisse se déplacer à pied ou en vélo. Et puis, ce que le phénomène de périurbanisation ne va pas s'arrêter comme ça, c'est de polariser la périurbanisation sur quelques communes plus importantes qui sont déjà équipées en termes de services, qui ont déjà des emplois, et surtout des communes qu'on pourra desservir facilement par des transports collectifs performants. Ça comprend notamment donc des communes déjà un peu plus importantes comme Douvres et Ouistreham, mais aussi toutes les communes qui sont actuellement sur l'axe ferroviaire et qui disposent d'une halte TER, en faisant le pari que si on urbanise avec des densités importantes autour de ces haltes ferroviaires, ce sera autant de personnes qui, dans leur lien vers l'agglomération, auront au moins un autre choix que de prendre la voiture pour aller en ville.
Merci. Alors, la dernière question. Dans le cadre de la révision du PDU de l'agglomération, quel recul technique pouvez-vous nous donner ?
L'agglomération, donc c'est le plan de déplacement urbain de l'agglomération. C'est le document qui va pour les 5 à 10 prochaines années, mais M. Vev en parlera mieux que moi, faire le projet de déplacement de l'agglomération. Le plan de déplacement urbain de l'agglomération existe depuis 2001 et il est mis en révision actuellement. C'est un petit peu tôt pour dire encore ce qui va en sortir. Par contre, on peut parler peut-être de l'évaluation qui a été faite du précédent plan de déplacement urbain, cette évaluation a été confiée à l'agence d'urbanisme. Alors c'était d'autant plus simple pour nous d'en faire l'évaluation que le plan de déplacement urbain en 2001 a été fait à l'époque où l'agence d'urbanisme n'existait pas. Donc on a un regard extérieur. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un plan de déplacement qui est resté à mi-parcours, c'est-à-dire qu'il y a quand même de nombreuses actions qui ont été faites, mais il y a tout un volet qui n'a pas encore abouti. Un plan de déplacement urbain qui était très complet, qui comprenait une cinquantaine d'actions, de fiches actions, de mesures, mais par contre qui manquait de hiérarchisation et d'organisation entre ces différentes actions, qui fait qu'au bout d'un moment, une fois que les mesures phares ont été faites, comme le TVR, il n'y avait pas forcément d'objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'effet d'entraînement pour un report modal, pour changer de mode de déplacement, et puis qui après permettra de faire d'autres mesures? Il n'y a pas eu cette hiérarchisation des mesures. Il n'y a pas eu non plus la programmation et le financement des mesures, qui fait qu'au bout d'un moment, il s'est un peu essoufflé. Et enfin, et ça c'est pas du tout spécifique à Caen, c'est que les plans de déplacement urbain sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice des transports, c'est ceux qui ont en charge les transports urbains. À Caen, c'est un syndicat mixte des cités, dans d'autres agglomérations, c'est l'agglomération. Mais le plan de déplacement urbain porte sur des thèmes beaucoup plus larges que les seuls transports urbains. Il porte aussi sur la voirie, le stationnement, les TER qui sont de la compétence régionale. Donc il y a un émiettement des maîtrises d'ouvrage. Et si le projet n'est pas porté par tous ces maîtres d'ouvrage, il a des bonnes chances petit à petit de s'éteindre. Juste une dernière réflexion sur le plan de déplacement urbain et avec les premières consultations qui ont été menées, la phase de diagnostic qui est en cours. Un point qui semble important, c'est que la politique de stationnement est quand même au centre de tout le dispositif. Bien sûr, c'est en complément des politiques de transport, des politiques de vélo et des politiques favorisant la marche à pied. Mais si on n'a pas le pendant en stationnement des aménagements pour les transports collectifs, en gros, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'on on met beaucoup d'argent dans les transports collectifs, mais on laisse très grande ouverte les portes de la ville à la voiture. Et on sait que sur beaucoup de trajets, quand même, la voiture reste avantageuse en termes de temps.
Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Patrice Bougie, qui est membre du conseil d'administration de l'association Dérailleurs, comme on l'a déjà dit.
C'est une association de cyclistes, mais c'est un petit peu ambigu parce que les gens imaginent, quand on parle d'association de cyclistes, qu'on est des cyclistes qui aimons le dimanche faire des grandes randonnées. C'est pas du tout ça. C'est une association qui milite pour le développement du vélo dans les déplacements quotidiens, précisément.
D'accord. Donc la première question qu'on souhaitait vous poser, c'est quel est votre point de vue en tant qu'association et donc membre de cette association sur les aménagements des pistes cyclables dans l'agglomération de Caen et la lisibilité de ces pistes, la dangerosité et la relation avec les autres usagers de la route?
Ça dépend. Quand on parle d'agglomération de Caen, il y a le centre-ville et puis il y a les zones un petit peu plus périphériques. D'une manière générale, le centre-ville est beaucoup moins dangereux, sans doute, que des zones un peu plus périphériques, si elles ne sont pas protégées. Bon, c'est-à-dire s'il n'y a pas des aménagements cyclables suffisamment sûrs. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus les choses sont compliquées, surtout si on sort des agglomérations urbaines. Le plus dangereux, c'est de rouler à vélo à la campagne. Moi, ma pratique quotidienne, c'est le centre-ville. J'habite à Venoy, je descends dans le centre-ville. Je vais éventuellement du côté de Vaucelles. Bon, tous ces déplacements-là se font facilement. Il n'y a pas de danger, très peu. Pour ce qui est des aménagements cyclables du centre-ville, bon, il faut savoir qu'on ne peut pas faire des pistes cyclables partout, c'est une évidence. C'est même pas forcément une bonne chose, parce que c'est pas mal que tout le monde apprenne à circuler ensemble, si on peut dire, pour apprendre à se respecter. Mais c'est vrai aussi pour les cyclistes, c'est vrai pour les automobilistes, c'est vrai pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que les automobilistes sont plus dangereux parce qu'ils ont une grosse machine d'une tonne autour d'eux. Il y a une grande innovation depuis 2-3 ans, c'est les contresens cyclables qui, à notre sens, à Dérailleurs, sont une très bonne chose. Ça correspond à mon expérience. Ça n'est pas du tout dangereux, contrairement à ce que croient les gens, puisque le cycliste est en contresens, il voit le danger, si danger il y a, c'est-à-dire les voitures qui sont en face de lui. Bon, naturellement, ça ne peut pas se faire dans des voies trop étroites, mais je peux dire que dans tous les contresens cyclables qui se font à Caen, les choses se passent très bien. À l'association, on ne nous a jamais signalé d'incident important dans les contresens cyclables.
En fait, vous avez répondu à ma seconde question, donc je vais vous poser la troisième directement. Comment vos adhérents intègrent-ils les autres modes de déplacement, notamment en fonction du temps qu'ils ont et des saisons et des distances à parcourir ?
Intégrer, bon, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire, mais il y a une chose qu'il faut dire, évidemment, c'est que quelqu'un qui utilise le vélo quotidiennement n'est pas quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui renonce à la voiture. Notre point de vue à Dérailleurs, c'est qu'il faut utiliser le mode de déplacement qui convient à la situation. Or, aujourd'hui encore, même s'il y a un très, très, très léger progrès, M. Bourreau rappelait qu'avec 2 ou 3% des gens qui circulent à vélo, aujourd'hui, on n'utilise pas, le plus souvent, on n'utilise pas le mode de locomotion, le mode de déplacement qui convient. On voit encore des gens qui prennent leur voiture pour des trajets de 200, 300, 400 mètres, et même jusqu'à 2-3 km. Le vélo est avantageux par rapport à la voiture, du fait qu'on n'a pas de problème de stationnement, etc. Donc, on n'est pas hostile du tout à la voiture par principe. Les membres de Dérailleurs, comme la plupart des gens qui utilisent le vélo, possèdent une voiture. Bon, simplement, ils en possèdent une par couple, par exemple, au lieu de deux, ce qui représente une sacrée économie. Hein. Mais ce n'est pas une hostilité de principe à la voiture. Simplement, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce pour quoi on milite, c'est pour un réaménagement, un rééquilibrage en fonction de tout cela, et à la fois pour des raisons de gain de temps, limiter les embouteillages, gain d'argent. Hein. Aujourd'hui encore, on dépense des milliards pour créer des pénétrantes, hein, pour entrer dans la ville, alors qu'on pourrait très bien l'éviter, évidemment, si, comme le faisait remarquer M. Bourreau, on rééquilibrait un petit peu au profit des transports en commun et des vélos, et pour des raisons écologiques évidentes.
Quand je parlais d'intégrer d'autres modes de déplacement, je voulais vous parler aussi du lien que les cyclistes peuvent faire avec, justement, les transports en commun.
D'accord. Bon, nous souhaitons que ce lien se développe. Malheureusement, il est encore compliqué. Nous avons toujours dit que nous aimerions que les vélos puissent entrer dans le TVR. Bon, il est ce qu'il est, enfin le tramway. Il n'est pas très grand, effectivement, pas très large. C'est pas, et on nous refuse en général l'accès au tramway, alors que parfois ça peut constituer un bon complément hein, pour des déplacements qui sont un peu plus longs. Pour ce qui est du train, c'est très variable. On peut très bien pratiquer une complémentarité vélo-train pour les trains régionaux. Hein, on peut très bien aller à Bayeux, à Cherbourg. Moi, ça m'est arrivé pour faire passer des examens. C'est une très bonne solution. Alors, les TER commencent à être équipés. Enfin, les nouveaux sont bien équipés. Bon, il y a quelques crochets. Il faut avoir des muscles hein, dans les bras pour suspendre son vélo. Mais enfin, bon, c'est mieux que rien. Pour les trains intercités, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Hein, pour aller à Paris, par exemple, si on veut entrer. Bon, c'est très compliqué, très difficile. C'est pire que ça n'a été.
Alors, donc je vais vous présenter et laisser la parole à notre troisième intervenant, qui est Jean-Louis Le Bouteiller, donc qui est maire d'Audrieux et président de la communauté de communes du Val-de-Seuil. Donc, Audrieux bénéficie d'une gare active. Pouvez-vous nous rappeler comment est-elle desservie? Quels sont ses impacts sur le développement de la commune?
Alors, tout d'abord, cette gare, elle a failli disparaître il y a une quinzaine d'années, puisque à l'époque, il y avait encore SNCF qui était l'instance de déplacement sur les rails. Puis il y a eu la division avec RFF. Et donc, effectivement, il a fallu déjà se battre pour conserver les arrêts. Et à la suite de ce combat, effectivement, on a eu la chance de conserver ces arrêts, d'une part. D'autre part, on a une deuxième chance, c'est la région. La région qui s'est impliquée dans le transport ferroviaire, et je crois que ça a été un grand démarrage pour le transport en commun, au moins sur la partie ferroviaire. Donc, suite à ces changements profonds, effectivement, ce sont 9 arrêts qui se sont mis en place sur la station TER d'Audrieux. Donc, Audrieux, il faut situer la commune. C'est une petite commune de 1000 habitants qui se trouve entre Caen et Bayeux, à 15 minutes par le train, justement, de Caen, et à 3 minutes de Bayeux par le train. Avec la possibilité, effectivement, de rejoindre Saint-Lô, mais d'aller aussi à Paris. Donc, qui est quand même un atout énorme pour notre petite commune. Donc, à différence de Caen et de l'agglomération, nous dépendons du SCOT, donc du schéma de cohérence territoriale du Bessin, qui est déjà constitué depuis plusieurs années. Et nous avons été remarqués comme pôle intermédiaire, c'est-à-dire que le pôle intermédiaire, c'est effectivement une zone de développement. Pourquoi une zone de développement? Justement, grâce à la gare et à ses arrêts de train. Donc aujourd'hui, ça nous a permis d'envisager la construction d'un écoquartier, puisque la population et la démographie a augmenté conséquemment, entre autres du fait de cette commodité que représente le rail, commodité parce que c'est simple d'accès, parce que c'est sécurisé, parce que c'est rapide et parce que ça ne coûte pas cher. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que pour se déplacer avec un abonnement mensuel, c'est 44 euros pris par moitié par l'employeur, donc 22 euros. Donc il y a également un rôle social et économique pour les familles, parce que ça évite, comme vous le disiez, d'avoir une deuxième voiture dans un couple et donc de minimiser effectivement le coût du transport pour des jeunes couples ou des plus anciens. Hein. Nous avons accueilli énormément de jeunes couples du fait de cette station. Effectivement, le nouveau quartier que nous allons construire, donc éco-quartier, il y a bien écologie dedans, donc qui est voué à des constructions un peu qui seront environnementales, bien évidemment, avec un aménagement environnemental, et qui va permettre, heureusement, de faire en sorte que les gens vont pouvoir aller jusqu'à la station, heureusement, par son emplacement. Tout à l'heure, Monsieur Bourreau le rappelait, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un certain temps ou d'une certaine distance pour que les gens puissent adhérer au transport en commun. Donc, on pourra se déplacer en reprenant le tracé, et c'est là où on rejoint l'histoire, d'une ancienne voie romaine qui va permettre de relier l'écoquartier à la station TER, soit par le vélo, soit à pied. Donc on a la chance d'avoir un abri vélo sécurisé, qui évite évidemment les risques de vandalisme ou autre. Possibilité effectivement de mettre le vélo dans le train, pour avoir, parce que la limite parfois du transport en commun, c'est comment on se déplace ensuite. Donc il y a le tramway, effectivement, il y a les bus, mais il y a encore des zones, je dirais, un petit peu d'ombre où on ne peut pas obligatoirement aller, je pense à la grande périphérie de Caen, pour certaines personnes qui sont employées dans des entreprises qui se trouvent vraiment excentrées. Donc voilà, il y a encore des limites. Donc c'est un travail, je pense que c'est un travail d'élu. Et je sais ô combien sur Caen... et sur l'agglomération, cette réflexion est prise en compte. C'est un nouveau challenge aussi, puisque autrefois on était dans le tout voiture. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, à contrario, il faudra un petit peu abandonner ce mode de déplacement. Et c'est à nous, les élus, alors que ce soit dans les grandes communes, mais aussi dans les petites communes, parce que j'ai aussi la chance d'être modestement président de la communauté de communes, comme vous l'avez rappelé. Et aujourd'hui, il faut savoir amener et faire en sorte que les gens des autres communes viennent sur cette station, et pas réserver seulement la station à la seule commune de Drieux. Donc voilà, de beaux challenges à mener, et de beaux combats à mener. Aujourd'hui.
Comment les usagers relient-ils le système train à d'autres moyens de transport ? Donc vous avez déjà parlé du vélo et à pied.
Alors voilà, oui, c'est principalement donc à pied, évidemment, pour les gens les plus proches, le vélo pour les gens un peu plus éloignés. On a aussi, au pourtour de la commune de Drieux, quelques villages où les gens viennent en voiture et laissent leur voiture sur le parking, prennent le train. Oui, j'oubliais aussi que parce qu'il n'y a pas que le train, il y a aussi un peu le covoiturage qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est de plus en plus une méthode comprise par beaucoup d'habitants, et je crois que c'est aussi un autre axe de développement qui peut être intéressant. Donc après, c'est aussi un travail d'élu, et c'est pas très compliqué parfois. Il suffit de mettre sur le site des communes un petit blog, et puis les gens, après, peuvent effectivement se connecter et ainsi se déplacer.
Merci. Donc c'est au tour d'Éric Veve, président de Via Cité. Pour quelle raison y a-t-il aujourd'hui une révision du PDU, donc plan de déplacement urbain, qui a été défini tout à l'heure par Thomas Bourreau? Et quelles devraient être, de votre point de vue, les nouvelles orientations ?
Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Un mot de ce qu'est Via Cité, c'est un syndicat mixte, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération cannaise, et qui comprend deux collectivités membres, à la fois l'agglomération et le conseil général. En tout, ce sont 60 élus qui siègent à Via Cité. Alors vous parliez du plan de déplacement urbain, il y a effectivement une révision qui est en cours. Pourquoi cette révision ? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que depuis 2001, année de l'élaboration du plan de déplacement urbain PDU actuellement en vigueur, il y avait 19 communes dans l'agglomération, c'est-à-dire ce que l'on appelle le périmètre des transports urbains, et aujourd'hui il y en a 29. Donc une première évolution qui nous impose déjà, de ce fait-là, une révision. Et puis la deuxième raison, c'est que nous voulons nous mettre en conformité avec des textes de loi tels que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain ou encore la loi sur le handicap de février 2005 qui pose un certain nombre de règles en termes de mobilité et qu'il faut intégrer dans notre plan de déplacement urbain. Vous évoquiez les orientations sans dévoiler ce que sera demain ce plan. Actuellement, il y a une concertation avec un certain nombre d'acteurs et il y en a, je sais, un certain nombre dans la salle. Je vous dirais qu'il y aura au moins 5 orientations dans ce futur plan de déplacement urbain. La première orientation, et Thomas Bourreau y a fait allusion, c'est tirer les leçons de l'évaluation par l'OCAM. Ces leçons, elle porte notamment sur deux choses. D'une part, faire en sorte qu'il y ait une meilleure appropriation par l'ensemble des acteurs du plan de déplacement urbain, mais aussi le fait d'associer l'ensemble des partenaires à un véritable dispositif de suivi et de mise en œuvre de ce plan de déplacement urbain, ce qui n'avait pas été fait par le passé. La deuxième orientation sera d'inscrire le plan de déplacement urbain dans un cadre plus large et de faire en sorte d'aligner ce PDU avec les grands documents de planification qui sont élaborés aujourd'hui, que ce soit en matière d'urbanisation, d'aménagement du territoire, c'est-à-dire le SCOT, Thomas y a fait allusion tout à l'heure, le PLH, donc le plan local de l'habitat, le PLU également de la ville de Caen, qui est en train d'être élaboré. La troisième orientation, ce sera de préparer l'avenir notamment avec les grands projets de transport en commun sur site propre. Vous savez, il y aura dans les prochaines années une deuxième ligne de transport en commun sur site propre sur un axe est-ouest, mais nous voulons également améliorer et travailler sur l'avenir de la ligne 1. Des choses seront probablement annoncées dans les jours qui viennent et je vous invite donc à regarder ce qui sera dit. La quatrième orientation, c'est de renforcer la solidarité envers les ménages vulnérables avec comme perspective, bien évidemment, le renchérissement des coûts du pétrole. Nous le savons, il y a un phénomène que l'on appelle le peak oil, c'est-à-dire le fait que les réserves de pétrole sont de moins en moins nombreuses. Et au moment où nous aurons atteint le pic de production de pétrole dans le monde, eh bien, les cours ne feront qu'aller en s'accroissant et par conséquent renchériront le coût des déplacements, sachant qu'aujourd'hui déjà le coût des déplacements, c'est le deuxième poste de dépenses des ménages, pour vous donner une seule indication. Et puis la cinquième orientation, ça sera de renforcer l'accessibilité des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite, et j'y reviendrai dans un instant.
Merci. Donc d'un point de vue politique, comment rendre attractifs les transports en commun, bus, tramway, covoiturage, et que leurs pratiques soient socialement mixtes? Par quelles actions accompagner ce changement?
Quand on interroge les gens sur ce qui pourrait les motiver à effectuer un choix de report modal, c'est-à-dire de passer du tout voiture à un mode alternatif de déplacement, et en particulier vers les transports en commun, trois motifs reviennent le plus souvent. Le premier motif, c'est disposer d'une offre de transport enrichie, améliorée. Le deuxième motif, c'est des tarifs attractifs, plus intéressants. Et le troisième motif, c'est des transports en commun confortables. Et depuis trois ans déjà que nous sommes en responsabilité à ViaCité, nous essayons d'agir sur ces trois facteurs et je voudrais vous donner quelques illustrations concrètes. S'agissant du premier motif, j'évoquais l'offre de transport. Dès 2008, nous avons décidé de revenir sur une décision qui avait été prise par la précédente équipe, qui était de diminuer l'offre de bus dans l'agglomération de 430 000 km. C'était une délibération qui avait été votée en décembre 2007 et qui nous est apparue totalement saugrenue au regard des enjeux du développement durable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé une grande concertation publique avec 45 réunions de concertation qui ont été organisées dans l'agglomération, puis 10 nouvelles réunions de restitution de notre travail. Et au bout du compte, nous avons augmenté l'offre de bus de 900 000 km par an dans l'agglomération. Et je tiens à le préciser, nous sommes l'agglomération de taille comparable en France qui a le plus augmenté son offre de bus depuis les trois dernières années. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est bien évidemment renforcer la place des transports en commun sur site propre. C'est le projet de ligne 2. Ce sont toutes nos réflexions pour améliorer à court et moyen terme le fonctionnement du TVR et pourquoi pas le remplacer avant même l'échéance du contrat qui est 2032, puisque nous avons un contrat qui court jusqu'en 2032 pour son exploitation. Voilà pour le premier motif. Le deuxième motif, c'est d'agir donc sur les tarifs. Il y a dans notre agglomération un certain nombre de dispositifs de gratuité ou de semi-gratuité qui profitent à un certain nombre de catégories de la population. Je pense par exemple à des seniors de plus de 65 ans non imposables, à des personnes sans emploi, etc. Et au-delà de ces dispositifs, il y a toute une série de choses qui existent et sur lesquelles nous essayons d'agir. Tout d'abord, la prime transport a été mise en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement par le gouvernement. Force est de constater que ce dispositif est encore mal connu de la part d'un très grand nombre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'an dernier déjà, nous avons fait en sorte d'organiser une grande communication autour de cette prime transport pour faire en sorte que les personnes, salariées ou fonctionnaires, puissent aller voir leur patron en leur disant « j'ai droit à la prise en charge de mon abonnement à hauteur de 50%. » Par ailleurs, nous avons effectué un certain nombre de baisses tarifaires. Alors je sais bien qu'on n'est pas allé aussi loin que ce que beaucoup de personnes l'auraient souhaité. Toujours est-il que ce sont les premières baisses tarifaires depuis 1976. Je tiens à le dire, jamais depuis 1976, depuis que ViaCité existe, il n'y avait eu de baisse tarifaire. Nous avons baissé par exemple le prix du ticket unité, ce qui a amené 5% de fréquentation, d'achat en plus sur ce type de titre. Par ailleurs, nous avons fait en sorte de mettre en place un dispositif intéressant pour les abonnements annuels pour les jeunes de moins de 26 ans. Et là, le résultat est tout à fait à la hauteur de nos attentes, c'est-à-dire qu'en un an, eh bien, on a eu plus 5000 abonnés jeunes de moins de 26 ans avec le dispositif que nous avons mis en place. Plus 5000 jeunes, c'est-à-dire 52% très exactement en plus de jeunes abonnés au transport en commun. Nous avons mis en place un tarif également pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, ce qui n'existait pas par le passé. Nous avons mis en place un dispositif spécial pour les seniors de plus de 65 ans, imposables, qui peuvent acheter des formules de tickets qui leur donnent droit à des tickets gratuits s'ils voyagent principalement aux heures creuses. Et puis enfin, nous avons mis en place des systèmes de réduction pour les salariés ou pour les fonctionnaires qui travaillent dans des structures qui signent avec nous des plans de mobilité. Aujourd'hui, il faut savoir que ViaCité a signé 23 plans de mobilité, le dernier étant celui que nous avons signé avant-hier avec la Ligue contre le cancer. Et puis, le troisième motif, je le disais, c'est d'agir sur le confort, faire en sorte que nos usagers voyagent de façon plus aisée. Et là-dessus, je dirais qu'il y a toute une série de leviers. Par exemple, c'est le fait de faciliter ce que l'on appelle l'intermodalité, le passage d'un mode de déplacement à un autre. Et là-dessus, nous avons par exemple toute une réflexion en cours sur la prolifération des parkings relais aux abords de la ville. On pourra y revenir dans un instant si vous le souhaitez. De la même façon, nous avons mis en place des tarifs multimodaux avec la région pour faire en sorte que les usagers du TER et des transports en commun de notre agglomération puissent avoir des réductions. Nous avons également comme volonté de mettre en place un titre unique de transport qui permettra, avec un seul et même support, de voyager indifféremment sur les TER, sur les bus verts du département interurbain, sur les bus bleus de l'agglomération, le tramway et Véole également. Et cela, nous voulons le mettre en place à échéance fin 2013, début 2014. Autre élément également sur lequel nous travaillons et qui sera concret normalement lors du deuxième semestre 2011, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un titre sans contact. Vous savez que Caen a été sélectionné au titre des villes NFC. NFC, vous savez, c'est une petite puce qu'on met dans des téléphones mobiles, dans des clés USB, dans des cartes bancaires, etc., et qui permettent toute une série d'applications. Eh bien, demain, on pourra valider son titre de transport avec son téléphone mobile, avec une clé USB, avec sa carte bancaire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et avec des premières applications au deuxième semestre 2011. Et puis, nous faisons également en sorte de multiplier les quais de plein pied pour les personnes à mobilité réduite. En deux ans, nous avons augmenté de 25% le nombre de quais de plein pied. Nous sommes passés d'un budget de 200 000 euros par an à un budget d'1 million d'euros par an par solidarité à l'égard des personnes à mobilité réduite et pour faire en sorte que toutes les personnes puissent voyager. Et puis enfin, il y a le dernier aspect sur lequel je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont des questions, c'est la question de la désaturation du tram. On constate qu'aux heures de pointe, c'est très difficile de voyager sur le tramway. Eh bien, nous sommes en train de travailler sur une mesure qui relève du bureau des temps, c'est-à-dire que, en fait, en agissant, en décalant, en incitant un grand nombre d'usagers à décaler leur voyage dans le tramway d'un quart d'heure, eh bien, on peut résoudre de moitié, ne serait-ce que de moitié, les problèmes de saturation sur le tramway. Il y a des villes qui l'ont fait. Je pense à Montpellier, je pense à Poitiers, par exemple, je pense à Rennes. Et nous y travaillons actuellement. Nous avons eu des premières réunions. Et là, maintenant, il faut que nous travaillions avec les lycées, les universités, qui sont des grosses pourvoyeuses d'usagers. Et puis, d'un mot, je voudrais terminer en disant que sur cet aspect, il y a les transports en commun, bien évidemment, mais il y a les mobilités alternatives aux transports en commun. Et notre souhait à ViaCité, c'est de faire en sorte de devenir à terme l'autorité organisatrice, non pas des transports en commun, mais des mobilités alternatives. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons nous impliquer à la fois sur le covoiturage, l'autopartage, le vélo en libre-service, les pédibus, c'est-à-dire la possibilité d'amener ses enfants à pied à l'école plutôt qu'en voiture. Nous allons mettre en place des dispositifs sur ce point. Nous travaillons également sur le stationnement avec la ville de Caen. Et enfin, dernier élément qui nous aide à mettre en place tout ça, c'est l'enquête ménage-déplacement que nous avons lancée récemment, qui nous permettra de disposer d'un très grand nombre d'informations puisque nous enquêtons 10 000 ménages dans le département.
Très bien, merci. Vous avez répondu d'un seul coup à toutes les questions. Donc est-ce que quelqu'un se lance pour le débat ? Vous présentez ?
C'est bien. Catherine Bougie, je voudrais poser une question à Monsieur Vèvre. Est-ce que ViaCité envisage justement une complémentarité transport en commun vélo, particulièrement TVR vélo, avec à des heures creuses la possibilité de charger les vélos dans le TVR ?
Bien, c'est une question qui m'a été régulièrement posée dans les réunions de concertation que nous avons organisées. Entre septembre et décembre 2008. C'est difficile aujourd'hui de mettre des vélos dans le TVR. Le TVR est un véhicule relativement étroit. Aux heures de pointe, pas besoin de faire un grand dessin, c'est strictement impossible. Aux heures creuses, est-ce que c'est possible pour autant ? Ce que l'on me rapporte, c'est que ça pose des problèmes de sécurité, et que le tram a en plus un système de freinage particulièrement brutal, brusque. La preuve en est, c'est que parfois, il y a des accidents à l'intérieur du tramway, tout simplement parce que le TVR freine de façon très brutale. Et avec un vélo, ça peut être particulièrement embêtant pour des usagers à l'intérieur. Voilà. Donc c'est pour des raisons de sécurité, me dit-on, aux heures creuses et aux heures de pointe, le problème, si je puis dire, est évacué puisqu'il n'y a pas de possibilité d'en faire entrer.
Constance, si je peux me permettre pour compléter, il y a les vélos et il y a les poussettes, étant une jeune maman. Imaginons vélo et poussette et freinage rapide, ça peut être sympathique comme résultat. Actuellement, avec ce tram, c'est pas possible.
Oui, donc Geneviève Guilmard, je suis urbaniste. Donc les questions de transport, enfin je viens de la région parisienne et donc les questions de transport m'intéressent au plus haut point. À Paris, la RATP a lancé tout un blog participatif parce que notamment pour toutes les réunions de concertation, tout le monde ne peut pas toujours se déplacer. Et dans ces blogs, bon, il y a beaucoup, c'est un vaste défouloir, mais il y a aussi tout un atelier de où on peut faire des propositions. Je voulais savoir si ça existait pour ViaCité, parce que, enfin, à part le café de la ville, moi, je ne connais pas forcément toutes les modalités. Et voilà.
Nous avons un blog à ViaCité avec des thèmes qui sont bien identifiés et qui permettent à tout un chacun de mettre un commentaire, une suggestion, une critique. Et vous y faisiez allusion à l'instant, c'est parfois un défouloir, mais parfois, c'est assez agréable aussi de voir qu'on a des commentaires positifs. Donc, si vous avez des critiques, exprimez-les. Mais si vous avez aussi des commentaires positifs, faites-le aussi, parce que quand on est élu, on apprécie parfois d'avoir des commentaires positifs.
Nathalie Lemarchand, ethnologue. Dans d'autres pays, les vélos sont mis à l'extérieur du transport. Et après, je ne sais pas si c'est possible techniquement. Après, on en discutait, il y a un problème aussi effectivement d'affluence, notamment dans les trams. Et pourquoi il n'y a pas des wagons supplémentaires de rajouter ? J'imagine que ça a été peut-être pensé. Ou je vous ai écouté attentivement, notamment sur la question des pédibus, parce que c'est vrai que quand on est avec des enfants en bas âge, c'est très difficile, en tout cas, de pas se servir de la voiture. Voilà, j'ai pas forcément un goût démesuré pour la voiture, mais en tout cas, quand on a des enfants en bas âge, c'est très compliqué. Et les pédibus, moi, ça avait déjà été évoqué au sein de l'école de mes enfants, et ça n'a jamais été mis en place. Alors, en même temps, je pense que les pédibus, c'est une grande idée, mais il faudrait que ça se mette en place, quoi. Voilà.
Alors vous avez posé deux questions. Alors pourquoi pas des rames complémentaires? Pour qu'il y ait des rames complémentaires, il faudrait qu'on en ait. C'est une réponse un peu simple, mais qui résume bien le problème. Aujourd'hui, nous avons 24 rames de tramway. Dans les faits, il devrait normalement en circuler 21. C'est ce qui est prévu au contrat. Et ce que nous constatons, c'est qu'on est régulièrement à 17, 18. En raison de problèmes de défaillance du matériel qui a été choisi ici. Nous avons bien évidemment demandé à Bombardier de nous faire des propositions de livraison de nouvelles rames et le résultat est tout à fait édifiant. Bombardier a arrêté de produire ce matériel depuis bien longtemps puisqu'il n'a été produit et livré qu'à Nancy et à Caen. Et par conséquent, nous disent-ils, pour relancer la chaîne de production, il faudrait dépenser déjà 26 millions d'euros. 26 millions d'euros pour relancer la fabrication du TVR. Et puis là-dessus se rajoute toute une série de coûts, je passe les détails, mais on en est au minimum à 80 millions d'euros pour avoir de nouvelles rames. Alors vous comprendrez que dans ces conditions, c'était un peu compliqué, qui plus est dans un contexte de tension et de pression sur les finances locales. Et nos réflexions se portent davantage sur un remplacement éventuel du TVR à terme plutôt que de disposer de nouvelles rames de Bombardier. Vous évoquiez le sujet des pédibus. C'est un sujet sur lequel on travaille. Mais bien évidemment, il n'y a pas que la volonté politique. Il y a, comme vous le disiez à l'instant, la volonté également des parents, du corps enseignant, de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation et une mobilisation durable. Parce que bien souvent, on constate que y a les parents qui se mobilisent pendant une année, et pour peu que les gamins passent par exemple au collège et que les parents des enfants qui passent au collège étaient ceux qui se mobilisaient le plus, eh bien le pédibus tombe en désuétude, et c'est ce qu'on constate dans un certain nombre de communes. Et c'est la raison pour laquelle on veut mettre en place un dispositif qu'on va annoncer lors du deuxième semestre, du second semestre 2011, pour inciter les communes et les écoles primaires en particulier à mettre en place ce type de dispositif avec des gens qui viendraient expliquer dans les écoles le bienfait des pédibus, à la fois pour des raisons de développement durable, mais aussi pour la santé des enfants. Tout simplement parce que marcher, faire un kilomètre à pied, moi je me souviens que quand j'étais enfant, je faisais régulièrement 30 minutes de marche pour me rendre à mon collège ou à mon lycée. Et ça ne me posait pas de difficultés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on tombe un peu parfois dans la facilité. Et ça, c'est justement un sujet sur lequel il faut faire de la pédagogie.
Mais il n'y a que Bombardier qui peut répondre en fait à vos questions.
Non, le seul constructeur au monde du TVR, c'est Bombardier. Et c'est toute la difficulté en fait d'avoir un matériel dit captif. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous dépendons à 100% d'un constructeur et d'un seul constructeur pour ce type de matériel. Si on avait un vrai tramway fer, par exemple, à supposer que notre constructeur fasse faillite, on pourrait se retourner vers 1, 2, 3, 4 autres constructeurs, parce que des constructeurs de tramway sur fer, il en existe plein. Et on pourrait par conséquent leur demander des solutions pour mettre des vélos à l'arrière.
Ce qui veut dire que donc pour l'avenir, le projet d'extension là, du tramway se fera sur un autre type de matériel.
Alors... Non, mais je vais vous répondre très simplement ce que j'ai répondu dans les réunions de concertation publique que nous avons organisées sur les projets de transport en commun sur site propre. Il y a, depuis un certain temps, 4 projets d'extension qui sont dans l'air du temps. 2 vers le nord et 2 vers le sud. Les deux principaux étant vers Éperon, vers le rond-point de la Bijude. en faisant passer un tramway sur la départementale 7, ce qui me paraît avoir beaucoup de sens, notamment pour désengorger cet axe routier qui est très souvent saturé. Et puis également une extension vers Fleury-sur-Orne, ce qui là aussi a du sens avec l'avenue d'IKEA et les projets d'habitat sur les Hauts-de-l'Orne. En l'état actuel des choses, faire une extension avec du matériel bombardier, nous l'avons fait expertiser, c'est entre 80 et 110 millions d'euros pour une seule extension. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que si nous devons remettre en cause le matériel bombardier pour envisager un autre type de matériel, à cette occasion, il faudra remettre sur la table le sujet des extensions que nous n'avons pas pu aborder depuis 2002, alors même que ces extensions avaient été vendues aux élus de l'époque. Moi, je n'entends pas, en tout cas, me lancer dans des grandes affirmations concernant les extensions, parce que ça a un coût réel, très important, et c'est la raison pour laquelle je préfère les aborder lorsqu'on prendra la décision de remettre en cause le système TVR. Le tramway a indéniablement un avenir à Caen. Sur la ligne 1, si nous devions remplacer le TVR par autre chose, il serait hors de question d'y mettre du bus traditionnel. Il faudrait le remplacer par un autre tramway sur pneus. Un autre fabricant au monde existe de tramway sur pneus. C'est le concurrent de l'époque de Bombardier, c'est-à-dire la société LOR. On envisage également, on y travaille, de pouvoir mettre, pourquoi pas, un vrai tramway sur fer à Caen. Mais il y a deux réserves sur ce point, sur ce projet. D'une part, et c'est la principale réserve, c'est la question des côtes. Sur l'axe actuel du TVR, vous avez des sections à plus de 10%. L'expérience la plus intéressante qu'on peut voir dans le monde, avec un tramway sur fer qui gravit des côtes à plus de 10%, c'est à Jérusalem, mais ça ne va pas au-delà de 10%. Et ici à Caen, on a deux sections à plus de 10%, aux alentours de 10,5-11%. Donc il y a déjà un premier problème à résoudre. Si on devait changer l'axe du tramway, ça nécessiterait au minimum 3 ans de travaux et donc une perturbation très importante du réseau de transport en commun. La deuxième réserve que j'ai, c'est sur le plan financier. Il faut savoir que 1 km de tramway sur fer, c'est 20 millions d'euros. Un tramway sur pneus, c'est 15 millions d'euros le kilomètre. Et un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un tram-bus, c'est à peu près 10 millions d'euros le kilomètre. Voilà, donc quelques ordres de grandeur qui vous laissent comprendre que on a aussi des questions, des équations financières à résoudre et qui sont complexes.
J'habite dans l'agglomération caennaise, je suis adepte du vélo et du transport collectif, mais je voudrais parler plus spécifiquement de l'association Écomobile et du covoiturage, parce qu'il y a eu simplement quelques allusions, mais il faut rappeler que regarder le matin, le soir, le nombre de voitures qui convergent vers Caen, dans lesquels il y a, dans la plupart des cas, une seule personne dans chaque voiture. Donc se pose effectivement, pour le périurbain en particulier, pour le périurbain, priorité au transport collectif effectivement sur l'agglomération elle-même, mais pour les périurbains, une des solutions, c'est pas la seule solution, mais une des solutions, c'est quand même de développer le covoiturage.
Moi, j'avais une question pour Monsieur le maire, je voulais savoir si vous avez développé les pédibus à Audrieux.
On a mis un petit peu au pied du mur les parents d'élèves. Parce qu'il est hors de question, effectivement, nous, on n'a pas énormément de personnel, donc ça ne peut marcher que sous forme d'association. Avec le problème de la pérennisation, la première année, tout le monde est d'accord, encore faut-il trouver les bénévoles. Quand on a exposé en réunion de conseil d'école la problématique de « on est d'accord, on veut bien vous accompagner », c'est de trouver les gilets, etc., le matériel et tout. Mais maintenant, il faut que vous désigniez des personnes. Et là, il y a eu un grand silence. On a senti qu'il y avait moins de mobilisation. Ça marche dans quelques endroits. Il faut savoir qu'actuellement, sur le département, il doit y avoir 9 pédibus. Donc on a fait intervenir, entre autres, 2 intervenants qui sont spécialistes, qui viennent de sortir de la faculté, qui sont des spécialistes du déplacement. On leur a demandé de nous expliquer ou de voir comment on pouvait mettre en place effectivement ces pédibus. Et ils sont bien conscients que sans la mobilisation, soit d'une association, soit des parents, eh bien, effectivement, ça ne peut pas se mettre en place. Donc, ça fonctionne dans certains autres pays. Il faut savoir quand même, en France, on est assez individualiste malgré tout. Et donc, quand il s'agit de s'investir, eh bien, il y a beaucoup de limites. Et ça, on peut le concevoir. J'ai la chance, moi, d'être dans un petit village où il y a beaucoup d'associations. Mais quand en fin d'année, il faut recruter des bénévoles, eh bien, c'est toujours un petit peu difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'effectivement, ça pose énormément de problèmes. Dans d'autres pays, en Suède, en Hollande, en Allemagne, effectivement, il y a un autre esprit, il y a une vue plus collectiviste, et effectivement, ça peut fonctionner davantage dans ces pays-là.
Le profil des cyclistes tel qu'il ressort des enquêtes, c'est qu'il y a traditionnellement quand même les milieux ouvriers, beaucoup de déplacements en vélo, et il y a un renouveau du vélo plutôt chez des actifs, plutôt jeunes et plutôt urbains, et des hommes. Ça, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui font du vélo dans toutes les populations. Il y a, ouais. Sur les politiques cyclables, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de 2% de vélo, c'est pas beaucoup. Passer de 2% à 4%, ça fait doubler. Mais gagner 2 points de part de marché, c'est-à-dire la part de marché des modes, la proportion des gens qui se déplacent selon tel mode, gagner 2 points de part de marché en transport collectif, c'est un énorme investissement. C'est faire un tramway, c'est faire un investissement lourd comme ça. Gagner 2 points de part de marché en vélo, finalement, c'est quelque chose de très, très rentable pour une collectivité parce que c'est un coût bien moindre. On a beaucoup d'actions de communication, un petit peu d'actions d'infrastructure, mais c'est pas de l'infrastructure lourde. Dans des grandes villes comme Caen, de toute façon, il faut faire les deux. Mais des agglomérations plus petites, et j'avais l'exemple d'une dame du Sertu qui nous parlait de Vienne, je crois, en région Rhône-Alpes, trop petit bien sûr pour avoir un tramway et dans leur réflexion sur mettre en place un PDU, ils y sont pas obligés, c'est pas une agglomération de 100 000 habitants, ils sont arrivés à la conclusion que peut-être qu'ils avaient intérêt à mettre le paquet sur le vélo parce que à financement égal, ils arriveraient à changer 3-4% des déplacements, le résultat qu'ils n'auraient pas en améliorant le réseau de bus avec les moyens qu'ils pouvaient consacrer à ce PDU.
Ça veut dire quoi mettre le paquet politiquement pour développer le vélo ?
Bon, il y a la question des pistes cyclables, bien sûr. Il y a la question du stationnement. La question du stationnement en lien avec, on a parlé du report modal, c'est par exemple du stationnement dans les gares, du stationnement fermé, bien sûr, en Normandie d'autant plus, c'est bien qu'il soit abrité. Fermé aussi parce que quand on laisse son vélo toute la journée, qu'on l'a pas sous les yeux, on préfère être sûr qu'il soit encore là le soir. Il y a la question de la communication, des actions de communication, et il y a toutes les questions d'éducation. Et il y a l'exemple d'un collège à côté de Montpellier qui a été un collège neuf, donc c'est plus facile. On construit autour tout de suite les pistes cyclables vers les quartiers d'habitation, et tout de suite on fait de la pédagogie. 60% des élèves du collège viennent en vélo. On est à peu près entre 5% dans un collège classique dans le reste de la France. Comme quoi c'est faisable, et l'échelle d'un collège, c'est une zone de rabattement d'à peu près 4-5 km, des jeunes gens qui sont a priori en bonne santé, c'est vraiment idéal pour faire du vélo.
Il faut prévoir les équipements qui vont avec en termes urbains, c'est-à-dire que si on crée des bureaux, tous les règlements d'urbanisme obligent à créer un certain nombre de places, de voitures, de stationnement. En Allemagne, il est limite, par exemple. Il est limite juste aux dirigeants, à ceux qui ont réellement besoin d'une voiture pour se déplacer. Ceux qui sont captifs, ceux qui viennent à la journée à leur travail, bah, ils sont obligés de venir soit en bus, à vélo, à pied, par un autre mode de déplacement. Ce qui veut dire aussi que si on vient à vélo, il y a le problème de l'hygiène, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui transpirent plus que d'autres. Donc quand elles arrivent à leur travail, souvent elles ne le font pas, parce qu'on se voit mal arriver en costard-cravate à vélo, c'est pas toujours évident. Donc il faut des vestiaires, il faut des douches, il faut un parking à vélo intégré au bâtiment. On ne peut pas garer son vélo sur le trottoir. D'ailleurs, souvent, on n'a pas le droit. Donc, il faut aussi imaginer tous ces éléments complémentaires.
Bonsoir, Laure étudiante. Donc, on évoquait les raisons pour lesquelles les gens ne font pas forcément de vélo. Et en fait, on n'a pas parlé de la participation en fait, des élus ou des politiques à ça. On considère qu'ils doivent donner les infrastructures pour le vélo et que les gens doivent se déplacer avec leur propre vélo. Mais il y a aussi une question de coût déjà d'un vélo, parce qu'un bon vélo coûte cher. C'est pas un vélo Décathlon de base qui va permettre aux gens de faire plus de 3 km par jour. Et en fait, en Angleterre, il y a un système qui a été mis en place à l'échelle nationale qui s'appelle Cycle to Work. Et en fait, on parlait justement du coût de l'abonnement mensuel ou annuel qui est remboursé par moitié par les employeurs. En Angleterre, en fait, les employeurs sont obligés d'être associés à un projet. En fait, l'État va payer entièrement avec l'employeur le coût du vélo. Ça va être payé, je crois, à la hauteur de 25% par l'employé sur son salaire. Et il aura possibilité, si jamais il quitte son travail avant échéance du paiement du vélo, d'acheter en fait le vélo et l'équipement qui va avec, donc les lumières, les habits, etc. Lui-même, en fait, de payer l'excédent, en fait.
Sébastien, bonjour. Donc moi, auparavant, il y a 3 ans, j'habitais à 20 km de là et j'utilisais ma voiture. On avait 2 voitures à la maison et souvent, comme on sollicitait ma belle-mère, on avait une 3e voiture qui, elle, habite Caen et qui venait en sens inverse. Ça faisait beaucoup de kilomètres. Je mettais 20 à 30 minutes et j'avais des problèmes de trouver stationnement pour mon véhicule. N'ayant pas réussi à déplacer mon activité proche de mon logement, j'ai choisi de faire l'inverse. Mon employeur n'offrant pas de possibilité de télétravail, donc j'ai opté pour habiter en centre-ville. Alors oui, bien sûr, ça a un coût et ça coûte plus que d'acheter un vélo. Donc je suis arrivé à Hérouville où j'ai la chance d'habiter donc là une maison. Mes enfants vont à l'école à pied. On a revendu une voiture et je me déplace en vélo. Mon vélo, au pire, si ça me coûte 300 euros, c'est beaucoup moins cher que 5000 euros de coût d'une voiture par an. Le seul problème, c'est effectivement quand la météo ne permet pas d'utiliser mon vélo, les jours de verglas ou les jours de neige, c'est souvent le jour où le tram ne marche pas non plus. Aujourd'hui, si je me déplace donc d'Hérouville et je travaille en centre-ville, il me faut quand même 30 minutes pour me déplacer en voiture parce qu'il me faut du temps pour trouver une place. Si je me déplace en tram, il y a, on va dire, 15 à 20 minutes de trajet, mais il y a 10 minutes d'attente les trams sont pas suffisamment réguliers. Donc résultat, je prends mon vélo, j'en ai pour 15 minutes. Donc effectivement, il y a un intérêt pour la santé. Je découvre la ville autrement. Je croise d'autres cyclistes et on se salue et c'est bien plus agréable qu'en voiture. Maintenant, je voudrais porter la réflexion sur comment justement réduire ce besoin de transport. Les solutions pour les transports, il y en a de multiples. On peut toujours discuter sur les inconvénients des unes et des autres, les avantages, les coûts. Et c'est un coût énorme pour la société, pour les collectivités. Et que finalement, si on a... La politique de transport ne devrait être qu'un seul une conséquence de la politique du développement économique et développement de l'habitat ou de l'urbanisme pour pouvoir rapprocher les deux et limiter donc les besoins de transport. Vous évoquiez tout à l'heure que l'on soit en voiture ou à pied, on a 20 minutes tous les commerces à proximité. Est-ce que c'est le cas aussi de son emploi? C'est pas toujours ça me semble pas, moi. Donc il y a peut-être plus un travail de réflexion sur comment rapprocher le travail ou redéfinir le travail peut-être, hein. Et donc se rapprocher le logement au travail, et puis quel type de commerce aussi par rapport à la proximité, où est-ce qu'on a besoin de sa voiture pour aller à Mondeville 2, où est-ce qu'on va au petit boucher d'en face, voilà, donc c'est peut-être une réflexion plus large, et que le transport n'est qu'un moyen ou qu'une conséquence de cette politique-là qui est à mettre en œuvre.
David Guiffard, pour aller un tout petit peu dans le sens de ce que vous dites, on peut constater que le prix du foncier est le moins cher là où il n'y a pas de desserte de transport en commun. C'est le premier point. Et quand on faisait référence tout à l'heure aux pays scandinaves, Allemagne, Hollande, où il y a des pratiques collectives de transport urbain, c'est aussi des endroits où les lois sociales font qu'on peut gérer ses horaires de travail. Tout le monde termine à la même heure, tout le monde commence à la même heure. Donc les transports sont réglés sur ces temps-là, etc., etc. Donc effectivement, la question du transport ne va pas sans la question de la résidence ou des lieux où on a besoin de stationner, de se rendre, etc. Et de l'organisation sociale et collective qui va avec. Jean-Louis Le Bouteiller tout à l'heure parlait de collectivisme, c'est peut-être un peu fort. Il y a rien de kolkhozien dans tout ça, mais il y a effectivement le sens collectif, en tout cas, d'un fonctionnement social ou sociétal qu'on peut se donner, et le transport n'en est qu'une conséquence ou qu'une partie, en tout cas.
Là-dessus, j'ai envie de vous citer 2 chiffres. L'un concernant la ville de Caen, on en parlait tout à l'heure. La ville de Caen a lancé un programme de travaux 2010-2012 qui fait que On passera de 49 km à 64 km d'ici 2012, ce qui est une bonne chose. Et dans le même temps, on fera 4 km d'aménagement sur le réseau existant. Et à l'échelle de l'agglomération, on a comme projet d'allonger les pistes cyclables de 48 km. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors les choses, bien évidemment, n'évoluent pas aussi vite que les cyclistes le voudraient, mais elles avancent malgré tout dans le bon sens.
Est-ce que la solution, c'est de séparer tout le monde et d'apprendre à personne à vivre ensemble, enfin, au niveau des modes de déplacement, ou est-ce qu'on s'habitue aussi à accepter les autres modes de déplacement sur les mêmes voies, quoi ?
Oui, alors, j'ai parlé là de la voie du tramway, mais sachez que, par exemple, dans les couloirs bus qui existent sur le réseau de Caen-la-Mer, nous avons fait en sorte qu'il y ait plus de couloirs bus dans lesquels puissent circuler des vélos. Hein. Nous avons commencé à y travailler avec Rudy l'Orphelin. Il y a de plus en plus de couloirs où les vélos sont admis, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Bonsoir, Patrick Ballois. Donc, j'utilise mon vélo au quotidien pour aller au travail. Une réflexion concernant les pistes cyclables. J'utilise le vélo aussi avec mes enfants. Je vais utiliser quasiment à 100% les pistes cyclables avec mes enfants parce que j'ai du temps. Et quand je vais au travail, j'ai un peu moins de temps. Et ma réflexion, avant de venir, là, je fais un petit calcul sur les tronçons de pistes cyclables que j'ai. J'en utilise que 50%. Quand je vais au travail, parce que les pistes cyclables, elles ne sont pas continues déjà, et elles ne sont pas adaptées à un déplacement quotidien et rapide pour aller sur son lieu de travail. Alors elles sont très bien, elles sont protégées, elles sont souvent très bien faites pour le dimanche ou aller à l'école ou le dimanche pour sortir avec les enfants, mais elles ne sont pas du tout adaptées ou mal relié pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Donc moi, en plus, je vais de Caen vers l'extérieur, je vais vers PSA, vers les usines, il y a une grande partie du tronçon que je n'utilise pas tous les jours parce que je perds du temps avec mon vélo. Alors est-ce qu'il y a une politique de connexion, d'amélioration de ça et de prise en compte de la piste cyclable comme moyen de transport quotidien?
On a fait réaliser un diagnostic des pistes cyclables à la ville de Caen par un cabinet qui s'appelle Transitech. Et effectivement, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le réseau cyclable est relativement discontinu. C'est la principale difficulté sur le réseau de la ville de Caen et de l'agglomération. Et précisément, l'un des objectifs qu'on se fixe, c'est de mettre des jonctions entre des pistes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de charge en quelque sorte et que ce soit plus facile de rouler. Si vous me permettez, je voudrais aussi rebondir sur ce que disait Laure, je crois, tout à l'heure au sujet du coût du vélo, qui parlait de ce que faisaient des employeurs en Grande-Bretagne. Me semble-t-il, sauf erreur de ma part, la prime transport qui a été mise en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement permet une prise en charge des abonnements sur Véol. Hein, ça, il faut le savoir. Et enfin, je voudrais dire que dans le cadre des plans de mobilité que nous mettons en place à ViaCité, nous insistons toujours sur la place du vélo et avec certaines entreprises ou avec certaines administrations, nous avons fait en sorte que des vélos soient achetés pour être mis à la disposition des salariés, que ce soit en quelque sorte l'autopartage au niveau des vélos pour circuler en journée, pour se rendre par exemple d'un site à un autre de l'entreprise ou de l'administration.
Oui, bonsoir, Émilie Monteco. Nous travaillons à la Cities et nous avons reçu il y a à peu près un mois ou deux mois de ça oui, avant Noël, un document donc parlant d'un plan de mobilité pour donc le quartier de la Cities, la zone d'activité, et donc en parlant d'une réunion potentielle pour créer un site de covoiturage, en tout cas une essayer de mettre en place une plateforme de covoiturage sur la Cities qui embauche, c'est vrai que de manière significative, beaucoup de personnes sur l'agglomération cannaise. Et donc on attend un courrier pour nous parler d'une réunion potentielle courant de l'année. Donc on voulait savoir juste une question, quand est-ce qu'aura lieu cette réunion, tout simplement.
Alors, nous avons embauché un jeune ingénieur qui nous vient des services de l'État, qui s'appelle Benjamin Croze, qui est en charge de mettre en place ces plans de mobilité. Il y en a une dizaine ou une vingtaine qui sont en cours de rédaction. Je pourrais vous montrer la liste tout à l'heure. Je crois que notre objectif, en tout cas, alors oui, je l'ai ici, avec le Galet Bouchard, la polyclinique du Parc, la cave du Calvados, la Schéma, qui est située sur la zone Cities, la Chambre des métiers de l'artisanat du Calvados, l'université, etc. etc. Et puis le CHU de Caen également, qui est un gros pourvoyeur, qui peut être un gros pourvoyeur d'usagers. La logique que nous essayons de promouvoir, c'est celle des plans de mobilité inter-entreprise. Tout simplement parce que on se rend compte que il y a des zones dans lesquelles on retrouve beaucoup d'entreprises ou d'administrations localisées au même endroit, et que en mutualisant ces plans de mobilité, on fait en sorte de mettre des salariés ou des fonctionnaires en relation les uns avec les autres, notamment pour faire du covoiturage. De la même façon, on peut mutualiser des aires de covoiturage et d'autres mesures encore. Alors, vous dire quand cette réunion sera organisée, Benjamin Croze pourrait vous répondre, mais c'est un des grands objectifs, en tout cas, que nous avons, de faire en sorte qu'il y ait un plan de déplacement inter-entreprise sur la zone Cities, puisqu'il y a à peu près 7 à 8 structures qui ont signé des plans de mobilité sur cette zone-là. Il y en a d'autres encore à venir. Et notre souhait, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit sur des logiques de zone. Par exemple, à Saint-Comté, sur la zone de la CCI, il y aura un plan de mobilité inter-entreprise. Mon souhait, c'est que dans le centre-ville de Caen, qu'il y ait un plan de mobilité inter-commerce. Ça a été fait à Lyon. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas fait au niveau du commerce de centre-ville? Il y a une association qui s'appelle les Vitrines de Caen, qui réunit à peu près 300 commerçants, et nous sommes en contact et en discussion avec elle pour mettre en place ce type de dispositif.
Se déplacer à vélo, c'est très bien quand on est jeune, sportif. Ça, quand on commence à prendre de l'âge, c'est plus compliqué. Moi, je monte le Gaillon tous les jours à vélo. Et donc, il y a eu un moment où j'ai senti que ça freinait pas mal. J'ai donc choisi la solution du vélo électrique. Et donc, je voulais juste apporter mon expérience, parce que c'était soit prendre ma voiture pour aller travailler, soit trouver une solution. Et je suis vraiment tout à fait convaincue par cette solution alternative que j'ai trouvée, parce que ça me permet, je pédale quand même, ça n'est pas un vélo Solex. Donc, je monte allègrement le Gaillon, je vais même plus loin, je fais des excursions à vélo, et ça a changé ma vie, dans ce sens où ça permet de faire de l'exercice, ça évite de se trouver dans les embouteillages, et donc je voulais apporter ce témoignage pour vous dire que même quand on aborde la soixantaine, on peut continuer à faire du vélo de façon assez aisée.
Alors je laisse la parole en fait à Pierre Bergel qui a la gentillesse de nous faire une synthèse.
Il m'a semblé, moi, sur ce que j'ai entendu, que on était vraiment passé de la notion de transport à celle de mobilité. Hein, et pour l'essentiel, c'était bien cette question-là qui était posée. Pas seulement une affaire technique, hein, de déplacement d'un point à un autre, mais une affaire à la fois de comportement, quel mode de transport on choisit en fonction de la distance, hein, ça a été évoqué. Une affaire aussi de stratégie, alors à la fois dans le temps, par exemple en décalant les horaires de début de la journée de travail pour permettre un meilleur écoulement des flux, ou en jouant sur l'intermodalité. Cette idée que effectivement on passe vraiment à une approche plus intégrée et plus, je dirais, comportementale finalement du déplacement, qui devient du coup une mobilité. Et puis ce qui a été évoqué, la liaison entre ces questions et puis participation des usagers aux réflexions, voire aux solutions. Hein, on a évoqué des blogs, on a évoqué des configurations différentes. Donc l'idée que l'usager devient aussi un élément actif ou un acteur, comme on dit aujourd'hui. Le deuxième point qui a été évoqué, donc on voit à Caen comme ailleurs, c'est celui justement des changements de mentalité et de comportement, hein, avec les chiffres que Thomas Bourreau a évoqués au tout début quand je n'étais pas là, mais je me suis renseigné, des reports modaux donc dans quelques villes qui semblaient, alors effectivement la question c'est, est-ce que c'est une affaire très conjoncturelle ou est-ce que c'est le début ou les prémices d'un changement plus profond. Et puis l'expression de mobilité alternative, ce terme a été employé par Monsieur Vèvre, alors alternative à la voiture, moi j'ai compris ça comme ça, et effectivement, la palette est très large jusqu'à la dernière qu'on a évoquée, celle du vélo électrique, donc le véhicule, les pédibus, le covoiturage, les gares dans le périurbain qui ont été évoquées également. Donc l'idée que, en étant beaucoup plus contraint par les affaires de mobilité, on essaye d'élargir le spectre et la palette des instruments de la mobilité. Et donc je crois qu'on reste bien dans cette affaire de la mobilité plutôt que du transport. Et puis l'idée que effectivement le vélo peut offrir beaucoup de résultats par rapport aux investissements et que les reports modaux pour un euro dépensé vont coûter moins cher à l'euro dépensé, si je puis dire. Donc ça c'est le deuxième thème. Et puis le troisième thème, on a évoqué plus sur des affaires cano-canaises, je dirais, la question à la fois des infrastructures et du matériel. Il y a l'idée du coût des équipements, équipements indispensables, mais qui en même temps peuvent avoir l'effet d'étendre par exemple la périurbanisation sur les infrastructures routières. Et puis dans les matériels, l'importance des contraintes de long terme dans les choix initiaux. Mais la question aussi du stationnement, des garages de vélos, des aménagements dans les bâtiments de destination. C'est vrai que du coup, là, la mobilité, on arrive jusqu'au bout, et à savoir le point d'arrivée et la mobilité, c'est aussi quand on arrête d'être mobile. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se doucher, par exemple. Donc effectivement, ça complexifie encore le problème. Et puis, d'où l'importance de l'accumulation des connaissances. Bon, c'est pas un universitaire qui va dire le contraire. D'où l'importance, par exemple, de l'enquête EMD qu'on a évoquée. Je ne me souviens plus de la signification exacte de l'acronyme, mais enquête ménage-déplacement, c'est ça. Donc, troisième thème, à la fois les coûts d'infrastructure et les contraintes de long terme, alors qu'effectivement, on ne sait pas par ailleurs si les changements de mentalité sont d'ordre conjoncturel ou structurel. Et puis, quatrième point, l'importance des politiques, je terminerai par là, que ce soit les documents de planification, on les a évoqués, mais aussi on a évoqué leur intégration, je crois que là, c'est le grand développement transformation qui a à attendre dans les quelques années qui vont venir entre les SCOT, les PDU, les PLH. Enfin, je reviens pas sur toutes ces questions et sur tous ces documents qui de plus en plus d'ailleurs sont coordonnés l'un par rapport à l'autre. Les politiques tarifaires qui sont de plus en plus sophistiquées. Et puis la question des rapports avec les lieux du travail, effectivement, et la question de la dissociation croissante entre lieux de résidence et lieux de travail, dont les distances moyennes ne font qu'augmenter et augmenter sur un rythme toujours rapide d'ailleurs avec le temps. Donc d'où la question des plans de mobilité. Et plutôt inter-entreprise ou inter-commerce, comme on les a évoqués.
Merci Pierre, c'était parfait. Alors, avant de remercier différents participants, je voudrais vous rappeler la date du prochain café, qui est le 17 mars, et le titre est un petit peu barbare, c'est post-RNU, COS, PLU, SCOT, et mon biotope dans tout ça. Donc voilà, et qui sera aussi donc au Bistrot du Palais. Je voulais remercier les différents intervenants, donc Patrice Bougie, parce que là, on ne s'est pas trompé dans l'ordre alphabétique, Thomas Bourreau, Jean-Louis, donc le bouteiller, et Eric Vève, pour leur participation. On avait également Ronald Minot, donc qui a la gentillesse de nous faire le montage et l'enregistrement donc de ce café. Et puis on a Anne Lacheret pour ses belles affiches, Sophie qui met les affiches dans les boutiques, le patron du Bistrot du Palais, qui n'est pas là mais qu'on remercie, on peut remercier sa représentante, et puis tout le public d'avoir été fidèle, intéressé. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup. Bonsoir.